Depuis le 18 novembre, plusieurs centaines de sans-papiers occupent le hall des sports de l'ULB. En Belgique, l'Office des étrangers estime à plus de 100 000 le nombre de sans-papiers. Clandestins, sans-papiers, demandeurs d'asile, sans-abri, ces termes utilisés régulièrement pour les désigner prêtent à confusion. Dominique Arnould, attaché de presse à l'Office des étrangers, nous explique les différentes catégories de sans-papiers.
Il y en a qui sont encore en cours de procédure d'asile, parce que ce sont des demandeurs d'asile. Et ils sont en cours de procédure, ils se joignent à un mouvement, mais pratiquement, pour eux, le sort n'est pas encore déterminé. Ils ne savent pas s'ils vont être acceptés ou pas. Il y a ceux qui ont fait une procédure d'asile et qui, en effet, ont été déboutés, n'ont pas été reconnus, ont introduit des recours, ont été déboutés et ont reçu des ordres de quitter le territoire de l'Office des étrangers. Donc eux, là maintenant, ils deviennent en séjour illégal sur le territoire, puisqu'ils n'obtempèrent pas à l'ordre de quitter le territoire. Et puis, encore une autre catégorie, c'est les personnes qui n'ont jamais rien introduit du tout, des personnes qui sont arrivées en Belgique, parfois au départ avec un visa tout valable 3 mois, mais après la durée du visa, ces personnes ne sont pas parties, ne se sont jamais manifestées, n'ont pas demandé à régulariser leur situation, n'ont pas demandé l'asile, et ces personnes sont illégales et en situation irrégulière depuis des années.
Au regard d'une occupation, l'amalgame entre sans-papiers et sans-abri est quasi systématique. Loin d'être tous sans-abri, la plupart des sans-papiers avaient un logement avant l'occupation. Willy Le Courty, bourgmestre d'Ixelles.
Ici, on en fait, si vous voulez, un peu des sans-abri, puisqu'ils occupent et qu'ils doivent passer des nuits sur des matelas et des sacs de couchage, etc. Mais en réalité, la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ont une famille, souvent même un travail, bon, en noir, mais enfin un travail quand même, donc ils ont quelques moyens. Bon, et ils ont quitté, si vous voulez, ce confort, entre guillemets, on va quand même mettre des guillemets au confort, pour faire des opérations de protestation.
Malgré des conditions difficiles, des centaines d'hommes et de femmes se sont réunis dans le hall des sports de l'ULB avec le même espoir, obtenir des papiers. Jean-Louis Van Erwegem, président du conseil d'administration de l'ULB.
Les conditions du hall des sports sont probablement les conditions liées au nombre, mais ça c'est clair que les conditions, c'est pas idéal, hein, ça on le sait. Mais c'est probablement ce qu'on a de mieux, si on peut dire, sur le campus, hein, parce qu'ailleurs, c'est encore pire.
Narcissa, une équatorienne sans papier en Belgique depuis un an.
C'est difficile pour rester ici, parce que les enfants, parce que c'est normal, c'est bien les maisons, mais c'est froid pour les manger, pour tout, c'est compliqué, les enfants pour malades.
Avant l'occupation, toutes les catégories de sans-papiers connaissaient déjà une situation précaire. Pierre Verbeeren, secrétaire politique au ministère de l'Intégration sociale et des pensions.
Ces 250 ou 500 personnes sont une toute petite partie de l'ensemble des personnes qui vivent dans un séjour extrêmement précaire, hein, sous le poids de certaines exploitations, par le logement, exploitation par le travail en noir, etc. Et il faut les sortir de cette précarité et les faire intégrer le marché du travail, qu'ils puissent cotiser correctement à la sécurité sociale, qu'ils puissent payer des impôts comme tout le monde, que leur bail, les baux locatifs soient enregistrés, etc. Ça, c'est notre boulot.
Le CAS est un comité d'action et de soutien aux sans-papiers composé pour la plupart d'étudiants et de professeurs. Jurilo Vertongen, membre du CAS, explique la nature des occupations.
Les occupations qu'il y a eu, pas seulement pour celle-ci, mais en général les autres occupations, ne sont pas, parfois elles tendent à l'être, mais en général ne sont pas des refuges de sans-abri. Ce sont des occupations politiques qui sont dans le cadre d'une lutte longuement menée sur une longue échéance. Ce n'est pas juste on vient occuper un bâtiment parce qu'on n'a pas de toit. Ceci dit, évidemment, ça arrive.
Pour les sans-papiers, participer à une occupation est synonyme de peur. En effet, ils craignent constamment une confrontation policière à travers une arrestation, une rafle ou une opération d'expulsion. Mais à trop s'impliquer, les sans-papiers prennent aussi un autre risque, celui de perdre leurs acquis. Willy De Courty, bourgmestre d'Ixelles.
C'est ça le danger, c'est de les impliquer de manière directe dans la défense de leur propre dossier, ce qui est évidemment incompréhensible sur le plan humain, mais en les impliquant directement, vous voyez ce qui arrive, il y en a qui quittent leur lieu de domicile, qui quittent leur boulot et qui se retrouvent dans une situation beaucoup plus misérable que celle qu'ils connaissaient.
En Belgique, il existe un droit au logement pour tous. Même si de nombreux sans-papiers vivent dans l'illégalité, la plupart ne sont pas des sans-abri. Ils se sont construits tout un univers avec leurs familles et leurs amis. Certains sont même propriétaires. Pierre Verbeeren, secrétaire politique au ministère de l'Intégration sociale et des pensions.
Personne, ou grand personne, ne dira que le droit au logement est réservé à ceux qui ont des papiers. Donc, c'est les personnes qui sont en mesure de se louer quelque chose ou d'avoir quelque chose, nous avons même des sans-papiers aujourd'hui qui sont propriétaires de logements, parce que dans une période où ils étaient en séjour légal en Belgique, ils ont acquis un appartement, petit, grand, moyen, modeste, etc. Mais ils ont acquis la propriété sur, de l'immobilier. Donc nous avons toutes sortes de situations.
Malgré le droit au logement, l'occupation de l'ULB représente tout de même un lieu de refuge pour certains sans-papiers. Oussem, un Tunisien sans-papiers en Belgique depuis 2 ans.
Si on n'a pas de chaussée d'Excel, il y a 2 semaines en fait, et si on n'a pas l'ULB aujourd'hui, on ne trouve nulle part. Hein. Eh bien, personnellement, je parle. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont trouver. Personnellement, j'ai nulle part.
Avant l'occupation, certains sans-papiers logeaient en famille ou chez des amis, souvent dans des conditions difficiles. On retrouve le témoignage de Narcissa, une équatorienne sans-papiers.
Avant l'occupation, je habite avec ma soeur. Ma soeur, il y a déjà un petit appartement. Nous sommes 5 personnes.
Avec des enfants en plus ?
Oui, avec des enfants, 3 enfants, oui.
La pression exercée par certains propriétaires est une contrainte supplémentaire pour les sans-papiers. Myriam, membre de l'UDEP, l'Union de défense des personnes sans-papiers.
Au niveau du logement, oui, c'est sûr qu'il y a la précarité, quoi. Et donc le propriétaire peut les loger dans n'importe quelle habitation, qu'il soit insalubre ou pas, parce qu'eux n'ont pas la possibilité de réclamer un logement salubre et pour un prix normal, puisqu'ils sont toujours menacés d'être arrêtés et de ne pas être écoutés, et menacés par le propriétaire d'être dénoncés aussi.
Jean Aboud, juriste spécialisé dans les procédures relatives aux sans-papiers.
Les propriétaires, c'est une petite mafia, excusez-moi des termes, qui les louent au noir, etc., qui savent qu'ils sont au noir ici, etc., qui en profitent, et combien de fois même ils n'hésitent pas à rentrer, même quand la personne est là, etc., s'ils sentent le moindre bruit ou s'ils accueillent un ami ou n'importe quoi.
Les sans-papiers appartenant à la catégorie des demandeurs d'asile connaissent d'autres conditions de logement. La loi prévoit à leur égard le droit de loger dans un centre ouvert le temps d'obtenir une réponse de l'Office des étrangers. En principe, les demandeurs d'asile sont fixés dans les 6 à 12 mois. Sur le terrain, on constate que certains demandeurs d'asile attendent bien au-delà de ces délais. Mais au fait, un centre ouvert, c'est quoi ?
Ce sont des centres où ils sont entièrement pris en charge.
Dominique Arnould, attachée de presse à l'Office des étrangers.
Donc psychologiquement, socialement, quotidiennement, dans le repas, l'entretien, la lessive, etc. Ils sont donc logés, nourris, chauffés. Et en même temps, ils ont une assistance pour leur permettre de suivre étape par étape tout le cheminement de leur demande d'asile, toute la partie administrative auprès du commissariat général.
Lorsqu'une réponse de la part de l'Office des étrangers est négative, le demandeur d'asile se retrouve dans l'illégalité, donc dans une autre catégorie de sans-papiers. Il doit alors quitter le territoire. Le temps d'être expulsé, le sans-papier est envoyé dans un centre fermé. On retrouve Dominique Arnould.
Les centres fermés, comme son nom l'indique, sont des centres fermés dans lesquels les personnes qui sont en infraction par rapport à la loi, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas commis des délits de droit commun, mais ils sont quand même en infraction administrativement par rapport à la loi sur le séjour d'un étranger. Donc ces personnes-là sont enfermées dans un centre fermé. Bon, on les assimile à des prisons, ce ne sont pas des prisons. Je les ai visités souvent, mais c'est vrai que ça reste un centre fermé. Donc vous êtes quand même quelque part privé de votre liberté.
Les centres fermés sont vivement critiqués, notamment par diverses associations et certains politiques. Pierre Verbeeren, secrétaire politique au ministère de l'Intégration sociale et des pensions.
Il y a un vrai problème avec la manière dont les centres fermés sont conçus et la capacité, sans jugement, d'enfermer des gens. Et donc là, on a une vraie difficulté. On a fait des propositions. Nous faisons des propositions de modification des textes légaux à ce sujet pour avoir une base légale.
Dans les centres fermés, certains sans-papiers commettent l'irréparable. En effet, lorsque l'Office des étrangers refuse leur demande d'asile, les sans-papiers sont placés directement dans des centres fermés. Ils n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux afin de récupérer leurs affaires. On retrouve Jean Aboud, juriste spécialisé dans les procédures relatives aux sans-papiers.
Il y a des gens qui ont fait des tentatives de suicide dans les centres fermés. Il y a des gens qui sont morts dans les centres fermés, qui sont suicidés carrément, parce que personne ne les comprenne. Et leur avocat n'a aucun moyen d'aller dans leur maison pour récupérer l'argent.
Pour remédier au problème des centres fermés, une modification de la loi est nécessaire. Pierre Verbeeren nous propose quelques solutions.
Donc, première solution concrète, c'est qu'il faut une décision d'un juge pour l'enfermement. Deuxième décision concrète, c'est que l'enfermement des mineurs soit interdit. Troisième décision concrète, c'est dire que à partir du moment où des centres fermés sont nécessaires parce que la loi restreint l'accès au territoire et donc qu'il faut créer un lieu où l'éloignement est possible, je n'aime pas dire le mot éloignement parce qu'il faut appeler un chat c'est une expulsion, donc ces lieux sont là et il faut au moins que les conditions de détention soient correctes.
Adémie Turtelbaum, ministre de la politique de migration et d'asile, principal acteur de la régularisation des sans-papiers, a refusé de répondre à nos questions. Les sans-papiers se confrontent à un mur, pour reprendre l'expression des divers intervenants. Devant le blocage de la circulaire qui fixe les conditions de régularisation des sans-papiers, les problèmes du logement apparaissent donc secondaires. L'occupation constitue pour les sans-papiers un logement symbolique dans leur lutte. Ils partagent ainsi la devise belge « L'union fait la force ». Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilonia.